Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des situations limites dans la vie auxquelles on aimerait ne pas avoir à faire face. Des situations limites qui, dans la vie professionnelle, peuvent pousser à faire valoir son objection de conscience. Une possibilité laissée à certaines professions de dire, à certains professionnels, pardon, de dire non à certains actes, certaines pratiques ou orientations. Qui sont ces professionnels? Que vivent-ils? Que prévoit exactement cette objection de conscience? Serait-ce là, de la part de ces hommes et de ces femmes, de l'héroïsme? Une émission Vivante Église ce matin, donc objection de conscience, faire face au dilemme, avec autour du plateau Philippe Capello. Philippe Capello est président de l'Association pour la liberté de conscience en France et coordinateur d'un ouvrage intitulé « Objection de conscience » paru aux éditions François-Xavier de Guibert. Bonjour.
Bonjour.
Madeleine, qui va nous rejoindre dans un instant ou qui est déjà en ligne et qui est infirmière. Bonjour.
Bonjour.
Et Grâce, qui est sage-femme et qui, elle, est en plateau. Bonjour.
Bonjour.
Quelques précisions. Donc, parlez bien près de vos téléphones. Je le dis tout de suite, cette émission n'a pas été facile à construire. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'invités par téléphone. Je m'en excuse auprès des auditeurs. Vous allez voir pourquoi, peut-être au fur et à mesure de l'émission. C'est un sujet extrêmement délicat et il n'est pas forcément aisé de trouver des témoins sur ce sujet. Je propose qu'on commence l'émission avec vous, Philippe Capello. On donnera la parole un peu plus tard à nos deux invités, Madeleine et Grâce, qui sont un peu les deux témoins de cette émission, infirmière et sage-femme. Comment vous définiriez l'objection de conscience? Quelle définition grand public vous en donneriez pour ceux qui n'en sont pas familiers?
Alors, l'objection de conscience, en fait, c'est le refus d'exécuter certains actes pour des actes qui, quelque part, répugnent à la conscience de la personne à laquelle on le demande. Alors évidemment, il faut distinguer, nous on fait la distinction entre une objection de conscience à caractère non raisonné, c'est-à-dire qui serait une forme de caprice, hein, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire tel acte, mais sans véritable raison, donc il manque ce caractère raisonné et de conscience, d'une objection de conscience raisonnée qui est fondée sur des motifs qui peuvent être communiqués et qui peuvent être justifiés par rapport à d'autres personnes. Voilà.
Est-ce que cette objection de conscience existe depuis longtemps? En fait, en préparant l'émission, beaucoup des interlocuteurs que je sollicitais me disaient « mais l'objection de conscience, ça n'existe plus ». C'était du temps où l'on pouvait être objecteur de conscience dans le cadre du service militaire. Dans la conscience des gens, ça concerne d'abord cette situation et les autres situations sont peut-être moins connues. Est-ce à dire qu'elles existent depuis de façon plus récente ou pas?
Alors effectivement, traditionnellement, quand on pense, le terme est récent et il est surtout lié à l'objection de conscience militaire. Mais avec la disparition du service militaire, ce type d'objection a disparu lui-même. Donc finalement, aujourd'hui, ce sont de nouvelles situations qui amènent des professionnels à faire objection. Ça touche beaucoup de gens, parce que ça touche les professionnels de santé. Là, on a deux témoins qui nous donneront des situations réelles. Mais ça peut toucher également, par exemple, des officiers d'état civil, sur toutes les situations qui sont liées, par exemple, au mariage entre personnes de même sexe. Ça peut toucher des assistantes sociales, des notaires. Ils ont à retranscrire des mariages aussi entre personnes de même sexe. Ça touche beaucoup de monde, des parents d'élèves qui, par exemple, refusent, ça a été le cas en Espagne, ça a été très important, qui refusent que leurs enfants subissent une propagande très forte dans le cadre de cours bien ciblés. Voilà, donc ça concerne beaucoup de monde. Hein.
Et à vous entendre, ça concernerait peut-être de plus en plus de monde. On le verra peut-être au fur et à mesure de l'émission. L'ouvrage que vous coordonnez donc fait intervenir un certain nombre de personnes, dont un Joël Hautebert, qui est professeur d'histoire du droit à l'université d'Angers. Il est le secrétaire général de votre association, donc l'Association pour la liberté de conscience en France. Peut-être avant que je fasse écho à ces propos, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est cette association ?
Alors, l'Association pour la liberté de la conscience en France, une association qui s'est créée en 2000, au moment de la loi Taubira, en fait, hein. Bon, elle avait été précédée d'une réflexion théorique, hein, sur le phénomène de l'objection de conscience, parce que l'objection de conscience est également une forme d'indicateurs face émergée de l'iceberg de paradoxes ou de contradictions dans le système politique que l'on vit aujourd'hui. Donc, même de manière théorique, c'était un phénomène intéressant à étudier parce qu'il manifeste un certain nombre de contradictions et de paradoxes. On pourra en reparler peut-être plus tard. Finalement, on a commencé à travailler avec des professionnels de santé, pharmaciens essentiellement, parce qu'ils n'ont pas de clause de conscience. Et en travaillant avec les professionnels de santé, on s'est aperçu de l'ampleur du drame humain qu'il pouvait y avoir derrière ces questions-là. Et au moment où la loi Taubira a commencé à être discutée, on s'est aperçu qu'il y avait également tous les officiers d'état civil, les maires, etc., qui allaient tomber dans ces catégories-là. Et donc on s'est dit que l'on ne pouvait pas rester à ne rien faire. Donc on avait un devoir, quelque part, d'assistance à personne en danger. Et donc c'est à ce moment-là qu'a été créée l'association. Donc l'association vise essentiellement à aider les personnes en situation d'objection, par du conseil, ça peut être en amont de situations délicates, ça peut être du conseil juridique, toujours en amont de procédures, et puis après ça peut être une aide également dans des procédures judiciaires, donc on finance, hein, les procédures et on trouve les professionnels qui aident. Et enfin, on met en relation les gens, parce que la solitude est un véritable problème dans les questions d'objection. Donc on met en relation les gens et on organise régulièrement des formations à destination des professionnels de santé visant à ce qu'ils puissent quelque part prendre du recul et puis aussi à apprendre à communiquer, hein, parce qu'il y a un vrai sujet de communication autour de la question de l'objection, hein, c'est comment communiquer à son entourage sur quelque chose qui est incompréhensible, hein. L'objection de conscience est aujourd'hui, elle est incompréhensible pour nos contemporains, on pourrait y revenir plus tard également.
On va y revenir, donc Joël Audebert, qui est secrétaire général de cette association que vous venez de rapidement décrire, l'ouvrage commence par son intervention, juste après une introduction et une préface de Monseigneur Ré, donc évêque de Fréjus-Toulon, assez connu peut-être d'une partie de nos auditeurs, dit de cet acte un certain nombre de choses. Alors vous n'allez peut-être pas avoir le temps de détailler chacun des items, mais il dit que c'est à la fois un acte personnel, professionnel. Il ajoute que c'est un acte politique et prophétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les quatre pieds de cet acte ?
Oui, alors effectivement, c'est un acte individuel parce que dans toutes les situations d'objection, c'est une personne qui est sollicitée pour faire un acte précis qu'elle ne souhaite pas faire pour des raisons de conscience. Elle considère que c'est un acte mauvais, donc elle refuse. Et ce refus, il est individuel. Personne ne peut se substituer à la personne. Donc elle se retrouve toute seule face à un choix cornélien qui est: est-ce que je fais cet acte ou est-ce que je ne le fais pas? Donc c'est individuel. Et tous les cas qu'on a dans l'histoire, mais il y a des cas très connus, hein, d'objection, ce sont des gens seuls, véritablement seuls. Même, ils peuvent être complètement isolés de leur famille qui ne comprend pas. On a le cas, par exemple, de Thomas More. Thomas More, sa famille ne comprenait pas son acte d'objection. Idem pour quelqu'un qui est peut-être moins connu, un Autrichien paysan qui a été béatifié par Benoît XVI, qui est Franz Jägerstätter, qui refusait d'aller sur le front de l'Est, refusait d'être enrôlé. Sa famille également ne comprenait pas son acte. Bon, donc un acte personnel, individuel, un acte bien souvent effectivement professionnel. Parce
Alors professionnel, qu'est-ce que ça veut dire ?
Professionnel.
Je cite peut-être Thibaut Collin qui est cité à ce moment-là. Un bon professionnel est quelqu'un qui, dans sa pratique, se rend adéquat aux exigences inhérentes à sa profession.
Voilà. Alors, la chose, c'est que le professionnel vise un certain but, donc il a un bien particulier à atteindre, et généralement ce qui lui est demandé va contre ce bien même particulier à atteindre. Par exemple, le professionnel de santé vise à soigner, vise à guérir, et donc quand on lui demande de faire un acte qui va à l'encontre, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a même le serment d'Hippocrate, ça va contre le serment d'Hippocrate. Donc c'est un véritable professionnel qui a intégré la fin particulière pour lequel il œuvre. Et dans le cadre de cette fin, eh bien évidemment, il refuse certains actes de manière très professionnelle parce que ça va contre la fin pour laquelle il œuvre.
Ensuite, un acte politique et prophétique. Est-ce que vous pouvez expliquer l'extension qui est faite?
Oui, alors effectivement, c'est très particulier parce qu'on est dans une société qui est en train de... on a un éclatement, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des droits. À partir du moment où des gens expriment un besoin, ce besoin... À partir du moment où il s'exprime de manière sociale avec un groupe et puis qu'il a une expression publique, ce besoin, au bout d'un moment, alors je dirais ça prend du temps, mais il est confirmé sous forme d'un droit. Et donc, on voit apparaître tout un ensemble de droits, et ces droits, amènent quelque part.
Une politique qui irait dans le même sens, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc on est effectivement qui va dans le même sens, et ces personnes qui objectent, et donc évidemment tous ces droits qui se développent amènent une dissolution du lien social, faut quand même être clair, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de bases communes. On parle de vivre ensemble, mais le vivre ensemble se détruit parce qu'il y a toutes les bases de la vie commune en société sont elles-mêmes mises à mal, et donc finalement le professionnel qui objecte a quelque part un rôle politique et prophétique dans le sens où il rappelle certaines bases de la vie commune en société. Donc c'est assez particulier, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il œuvre pour le bien commun en rappelant qu'il y a certaines règles communes pour la vie en société. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les professions qui sont concernées par la possibilité d'avoir une objection de conscience aujourd'hui en France?
C'est très 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 large. On a vu tous les professionnels de santé, ça c'est réel. On a
non pas les personnes qui sont concernées, mais les personnes qui peuvent faire valoir une objection de conscience.
Ah pardon.
Pour qui la loi prévoit cette possibilité?
Ah oui. Alors vous avez les professionnels de santé en dehors. Bon, les pharmaciens n'en ont pas. Donc ça c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de clause de conscience pour les pharmaciens, mais les professionnels de santé ont des clauses de conscience. Et après c'est à peu près tout parce que
les journalistes quand même. Je peux vous dire que les journalistes normalement ont une objection de conscience.
Exact, oui, alors c'est tout à fait les journalistes, mais par exemple, vous prenez les officiers d'état civil, les maires, adjoints aux maires, n'ont pas de clause de conscience. Hein. Bon, voilà. Donc,
Que dit la loi française sur ce sujet? Je ne sais pas, la loi européenne, est-ce là une liberté fondamentale qui est exprimée, qui est largement formulée et qui est en fait actée, et ce depuis longtemps, et qu'il faut juste travailler à mettre en œuvre?
Alors, la grosse difficulté, c'est qu'on a deux droits qui doivent cohabiter. Il y a le droit à la liberté de conscience, enfin la liberté de la conscience, donc ça c'est un véritable droit, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a l'ensemble de ces droits qui doivent s'exercer, ces nouveaux droits, le droit à la santé reproductive, les droits sexuels, le droit au mariage entre personnes de même sexe, demain le droit à l'euthanasie ou le droit à mourir dans la dignité. Ces droits doivent pouvoir être exercés de manière très opérationnelle, et ça veut dire que tous les gens qui sont dans cette chaîne de collaboration doivent nécessairement collaborer. Donc après, c'est une question de rapport de force, de cohabitation de ces deux droits, et on voit des situations très variées dans le monde où soit les droits de la conscience prévalent, et donc finalement ceux qui veulent faire prévaloir quelque part leurs droits râlent, et parce que finalement leur droit ne peut pas s'exercer, ou on voit des situations à l'inverse, qui est plutôt le cas chez nous, où ce sont les droits de manière générale qui prévalent, et les gens qui veulent faire valoir leur clause de conscience, leur liberté de conscience, ne peuvent pas. Donc...
Parmi les intervenants dans votre ouvrage, il y a Thibaut Collin, donc philosophe et écrivain français, assez connu peut-être de certains auditeurs, auteur entre autres d'un livre sur la morale de Monsieur Payon, paru, il y a ça de quelques années. Et Thibaut Collin fait les mots suivants. Je cherche en fait ces mots. Voilà, il fait un lien entre la laïcité française et donc la nécessité ou en tout cas l'intention d'une neutralité et petit à petit une altération du goût de la vérité. Il dit la chose suivante, alors ça vient comme en conclusion de son chapitre, donc ça peut paraître un peu raide, mais vous allez peut-être expliciter son propos. Le régime mental qu'est la laïcité altère le goût de la vérité au profit de celui d'une approche des moyens de persévérer dans son être, ce qu'indique ultimement l'adage relativiste à chacun sa vérité. Comment vous éclaireriez cette courte citation de Thibaut Collin qui est dans votre ouvrage?
Oui, alors on peut revenir sur ce qu'on a déjà dit, c'est qu'effectivement on est quelque part dans une neutralité, mais une neutralité où justement il ne doit plus y avoir de socle commun. Parce qu'à partir du moment où il y a un socle commun, par exemple le fait de pouvoir, le droit à la vie, entre guillemets, de la conception jusqu'à la mort, le pendant, c'est quelque part le droit des femmes à pouvoir bénéficier de leur corps. Donc, il ne peut pas y avoir de vérité, parce que s'il y a une vérité, il y a certaines minorités, alors bon, là on parle surtout par exemple des mariages entre personnes de même sexe, s'il y a une vérité, il y a des personnes qui sont lésées quelque part, ou des communautés qui sont lésées dans leur manière d'appréhender la vérité. Donc il n'y a plus de vérité. Et donc finalement, ce que dit Thibaut Collin, c'est que en affirmant que tout est possible, parce qu'en fait, toute minorité qui demande un droit spécifique, donc aujourd'hui, par exemple, on a le mariage entre personnes de même sexe, mais pourquoi un mariage entre deux personnes? C'est encore un verrou qu'il faudra faire sauter un jour, parce que c'est quelque chose qui est très lourd, puisque notamment toutes les questions autour de la GPA-PMA pourraient être réglées avec un mariage entre personnes à trois ou à quatre, ce serait beaucoup plus simple. Donc ce verrou-là, demain, peut sauter. Et donc, finalement, il y en a plein d'autres qui peuvent sauter après. Hein. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des communautés qui demandent des choses et qui demandent des droits. Et donc, la société doit y répondre. Et en cela, cette forme de pensée n'est pas neutre. Parce qu'en fait, elle-même est une forme de vérité sur l'absence de vérité. Voilà, c'est...
Voilà, on va faire une première pause musicale. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné, Philippe Capello, Objection de conscience, paru aux éditions François-Xavier de Guibert. On va retrouver après notre infirmière et notre sage-femme qui vont nous donner l'une et l'autre leur simple témoignage. Dans quelles circonstances ont-elles fait valoir cette objection de conscience? Et je rappelle aux auditeurs, où je les prie de nous excuser, qu'il y ait beaucoup de monde par téléphone, mais c'est une émission pour laquelle il était difficile de trouver des gens qui puissent venir à l'antenne.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin sur le thème Objection de conscience, faire face au dilemme. Autour du plateau, présent sur le plateau ou par téléphone, Philippe Capello, président de l'Association pour la liberté de conscience en France, coordinateur d'un ouvrage intitulé Objection de conscience paru aux éditions François-Xavier de Guibert. Madeleine, qui est infirmière, et Grâce, qui est sage-femme, et toutes deux. Qui ont demandé à ce qu'on ne donne pas leur nom de famille. On va commencer avec vous, Madeleine. Évidemment, on s'est eu un petit peu au téléphone avant pour préparer ces témoignages, qui sont des témoignages assez forts et courageux. Je reprécise, pour ceux qui par hasard nous prendraient en cours de route, qu'il y a beaucoup de monde par téléphone, car il n'est pas simple de trouver des témoins pour de telles émissions. Madeleine, vous êtes infirmière, vous, et vous avez eu à faire face, pendant vos études, à un acte que vous ne souhaitiez pas poser. Racontez-nous d'abord, dites-nous peut-être de quel acte il s'agit, et racontez-nous d'abord, dans un premier temps, pendant vos études et les différents stages que vous avez été amené à faire, comment vous en êtes sorti pour ne pas poser cet acte.
Donc, moi, je suis diplômée depuis 15 ans, une quinzaine d'années. Et pendant mes études, j'ai été confrontée dans différents stages, comme les stages de gynéco ou les stages de maternité, au problème de l'avortement. Et comme en fait la plupart des étudiantes ou étudiants infirmiers ou sages-femmes, j'en connais pas, en tout cas, sûrement peut-être ça arrive, qui ont posé réellement une objection de conscience à ce moment-là. Moi, j'ai fait un peu comme on fait finalement d'autres amis qui étaient d'accord avec moi là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un peu louvoyé pendant nos études. Donc on disait pas je le ferai pas parce que objection de conscience, on s'organisait pour être dans une autre salle, on jouait sur d'autres gistes. Donc moi par exemple, il y a eu une ou deux fois où mise au pied du mur, je leur ai dit écoutez, je suis trop bouleversée, j'arrive pas à gérer, c'est personnel, je suis hypersensible, ou je suis très jeune, ou ce qui était vrai, voilà. Et du coup, j'ai louvoyé, sans donner vraiment mon avis là-dessus. Et en fait, des copines, des collègues et tout ça qui ont vécu ce genre de choses ont beaucoup louvoyé aussi pendant leurs études. Une copine sage-femme qui a fait pareil, qui même se faisait porter pâle, entre guillemets, parce que le lendemain, elle savait qu'elle allait être obligée de faire une IVG. Donc voilà.
Est-ce que quand vous êtes étudiante, vous avez droit à cette objection de conscience, ou est-ce qu'il faut attendre d'être diplômée?
Alors, je pense que comme c'est une formation professionnelle, après peut-être que je me trompe, mais dans la théorie, on est déjà affilié au secteur de santé, donc on pourrait avoir le droit. Simplement, en fait, on a peur d'avoir des problèmes, c'est-à-dire que pour même des choses moins graves que ça, on sait qu'on peut se faire casser en stage, et se faire casser en stage, ça veut dire se faire casser ses années et ses études. Donc c'est beaucoup ça qu'on se dit entre nous, quoi.
Ensuite, donc vous avez été embauché dans une clinique, dans un bloc opératoire, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que vous nous expliquez exactement quelle était la fonction à laquelle vous avez postulé, et nous redire, vous avez été assez clair depuis le début, quelle a été la réaction de votre supérieur hiérarchique?
Alors là, la différence, c'est que j'étais déjà diplômée, etc., qu'on recherchait beaucoup d'infirmières au moment où j'ai postulé, et qu'on m'a proposé un poste en chirurgie traumatologique en bloc opératoire. Donc traumatologie, orthopédie, vous voyez, les os cassés, quoi. Donc pas de problème éthique à ce niveau-là. Et je suis arrivée le premier jour, et en fait, je me suis rendu compte que le bloc, finalement, les blocs avaient été réunis en termes de personnel, et qu'on demandait aux infirmières qu'elles soient polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles soient capables d'intervenir sur toutes les spécialités. Et donc il y avait du digestif, de l'urologie, des tas de choses. Et entre autres, il y avait de la gynéco. Et moi, je savais ce qu'on faisait en gynéco. C'est un service que j'ai vraiment évité depuis la fin de mes études d'aller bosser là-bas, pas parce que j'aime pas la gynéco, c'est passionnant comme spécialité, mais pour ces raisons éthiques. Et là, je me suis retrouvée confrontée à ça. Donc le premier jour, sachant que c'était quand même facile, je risquais rien, je suis allée voir la cadre en lui disant, écoutez, il y a eu une erreur de casting, vous me demandez d'être polyvalente, moi je veux bien être polyvalente sur tout ce que vous voulez, en revanche, je ne ferai pas d'IVG, c'est personnel, j'en ferai pas, ça ne changera pas, c'est pas parce que c'est dur pour moi, je ne changerai pas d'avis, quoi. Et donc, en fait, peut-être que vous vous êtes trompé et qu'il faut que j'aille travailler ailleurs, il y a besoin d'infirmières partout, c'est pas grave, quoi. Et en fait, là, elle a réagi d'une manière assez pincée, en me disant non mais c'est la loi, vous avez le droit, moi je suis très ouverte, j'accepte que les gens s'expriment, donc vous avez le droit, il n'y a pas de problème, restez là. Et j'ai insisté en disant vous êtes sûre et certaine, parce qu'en fait c'est le premier jour, à la première heure, on s'en fiche quoi, je peux aller ailleurs. Non, j'ai dit que ok, d'accord, voilà. Et puis ensuite, finalement, dans les faits, même si ça n'a jamais été remis en cause verbalement par cette cadre, elle me mettait très régulièrement sur les journées IVG le matin. Nous, on arrivait très tôt le matin au bloc pour ouvrir les salles et tout ça pour
commencer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une journée IVG, juste pour ceux qui ne connaissent
pas ? Les journées IVG, donc c'est les journées, en fait, des salles de gynécologie lambda en bloc opératoire, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui arrivent pour des avortements chirurgicaux, donc c'est-à-dire qu'elles sont pas en tout début de grossesse, donc les médicaments, les produits, ça suffit pas. Et dans ce cas-là, les infirmières sont les mains dedans, entre guillemets, aux avant-postes, quoi. Il n'y a pas que le gynéco. Il faut toute une équipe autour d'une intervention chirurgicale. Et donc, on pense toujours au chirurgien ou à l'anesthésiste, mais en fait, il y a infirmier anesthésiste, infirmière de bloc, aide opératoire. Enfin, il y a tous ces gens-là qui font partie et qui interviennent directement.
Donc, vous êtes retrouvé face à cette situation. Et alors, comment avez-vous réagi ?
Et donc les journées où je me retrouvais sur ces plannings-là, bah, du coup j'étais mise en porte-à-faux par rapport à mes collègues. Donc il fallait, parce que la cadre elle arrivait qu'à 9h, et du coup il fallait que j'aille voir certaines collègues qui étaient sur d'autres plannings, donc planning orthopédie ou planning urologie, je sais pas quoi, en leur disant écoute, en fait moi je fais pas d'IVG, elle m'a mis sur le planning IVG, donc est-ce que tu peux me remplacer ? Donc évidemment, par rapport à l'intégration dans une équipe, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait les personnes n'aiment faire ça, et elles le disent toutes qu'elles n'aiment pas.
Alors justement, donc là, on voit que vous avez fait valoir votre objection de conscience, que dans les faits, c'était un petit peu plus compliqué. On profite de votre présence. Il ne s'agit pas d'être morbide, mais en fait, l'avortement ou enfin, ce type de situation, on en parle, mais on ne connaît pas très bien. Vous aviez l'air de dire que vos collègues, hommes et femmes, j'imagine, ne vivaient pas bien les actes qu'ils avaient eux-mêmes à poser, et qu'au fur et à mesure du temps, enfin en tout cas c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, ils se sont un peu ouverts à vous de leurs difficultés. Deux questions, est-ce que vous pouvez nous faire part des réserves que vous avez entendues, et puis nous dire peut-être d'abord quel type d'actes en fait ils sont amenés à poser ?
Et alors en fait, donc au niveau chirurgical, donc après en gynéco, dans les services de gynéco sur les avortements très précoces, donc c'est avec on met les perfusions et puis le corps évacue tout seul. Donc en fait, on est aussi aux avant-postes et de manière chirurgicale, la patiente dort et donc avec des techniques chirurgicales, on évacue et on évacue le bébé quoi. Et donc voilà, donc on est vraiment, on voit très bien ce qui se passe. C'est des gestes qui ressemble au geste, par exemple, quand il y a des femmes qui font des fausses couches dont bébé s'évacue pas bien, etc. Donc, en fait, moi, j'ai fait ces gestes-là, pas sur des IVG, sur des bébés qui étaient déjà morts après des fausses couches, vous voyez. Donc, je sais très bien ce que c'est, accueillir un bébé mort, abîmé, etc. Je sais très bien ce que c'est. Simplement, entre guillemets, l'acte était très différent. C'est qu'on accompagnait une femme qui était en train de vivre une histoire triste, qui était de perdre un enfant. Et on n'avait pas nous-mêmes... mis la mort en fait dans la vie de cet enfant quoi.
Racontez-nous donc, peut-être les situations limites auxquelles vos confrères ont été confrontés et qu'ils vivent très mal.
Et c'est ce que vous disiez, ils se sont ouverts à moi au fur et à mesure quand on s'est mieux connus, et c'est atroce parce qu'en fait ils le disent tous, moi je ne connais pas une personne qui n'ait pas dit moi ça ne me dérange pas d'en faire, ils disent tous personne n'aime en faire. Il faut bien. Et donc, il y a ce côté « il faut » où je me dis, en fait, est-ce qu'ils sont vraiment en accord avec eux-mêmes à l'intérieur ? En fait, non. C'est qu'ils disent « il faut, on n'a pas le choix, on est bien obligé. C'est des phrases qui reviennent beaucoup. Et donc, après, on se rassure un peu comme on peut. Et par exemple, ils me disent « je fais des cauchemars, j'ai des images qui me reviennent. Quand j'étais enceinte, je savais très bien quel était le stade de mon bébé parce que tous les stades de grossesse, je les ai vus dans les IVG. » Donc je savais comment c'était. Et il le dit ça. Et par exemple, une collègue qui me disait, était une fille, elle m'en parlait, elle pleurait, ça s'était passé 20 ans avant, quoi. C'était une collègue qui avait une grande carrière. Elle me disait, moi je me suis retrouvée au moment d'une IVG tardive, donc pour un enfant qui était handicapé. Et on m'a mis le bébé dans les mains, il était en vie à la naissance. Et on m'a dit, parce que les autres s'occupaient de la femme et tout ça, moi j'avais les mains libres, entre guillemets, et ils m'ont dit, il vit encore, va le mettre au frigo. Et cette collègue me dit, je me suis retrouvée avec ce bébé dans les bras, à sortir dans le couloir, un bébé tout nu comme ça. Et elle me dit, dans ma tête, je me répétais la phrase de, il aurait dû être dans les bras de sa mère, il aurait dû être dans les bras de sa mère, qu'est-ce qu'il fait dans mes bras à moi, il n'y a pas de sens. Et j'ai essayé de marcher le plus lentement possible en me disant, je ne peux pas le mettre au frigo alors qu'il respire encore. Et j'ai fini par arriver devant le frigo. Et puis comme j'avais peur que mes collègues m'appellent et se demandent ce que je faisais, j'ai essayé de le faire le plus doucement possible, mais je l'ai posé sur le rayon froid du frigo, tout nu, et j'ai fermé la porte. Et ça, c'est une des multiples histoires que j'ai pu entendre.
Donc ça, c'est votre témoignage, Madeleine. Peut-être on trouvera à y faire écho, on demandera un commentaire à Philippe Capello. On va demander à Grace de nous raconter ce à quoi elle a été confrontée elle-même, donc comme sage-femme. Je le dis peut-être en préambule, on a cherché d'autres types de témoignages. On aurait pu en effet trouver des officiers d'état civil, comme le disait Philippe Capello. On trouvait des personnes qui ont été confrontées à des pratiques dans des entreprises où ils considéraient qu'il fallait faire valoir une forme d'objection de conscience, même si ça n'existe pas peut-être dans le monde de l'entreprise. Bref, on a cherché et c'est vous qu'on a trouvé, mais on va pas s'en plaindre. Grace, vous êtes sage-femme. Vous avez été confrontée donc à la même difficulté, mais dans des circonstances différentes. Vous avez 27-28 ans, c'est
oui,
ça ?
C'est ça, 27 ans.
Votre premier poste donc était en clinique, mm-hmm. Non loin d'ici. On donnera peut-être pas le nom de la ville. Dites-nous quelle était votre pratique professionnelle et à quelles difficultés vous avez été confrontée.
Alors, moi, j'avais donc postulé un poste de sage-femme pour travailler en bloc naissance et suite de couches, donc les accouchements et l'hospitalisation normale qui suit. Je n'avais pas fait état de ma foi au moment de postuler, donc on ne m'avait pas forcément précisé qu'on accueillait des IVG dans le service également, quand le service de gynéco à côté débordait. Alors, ce sont des IVG médicamenteuses, c'est pas exactement la même chose que ce dont parle ma collègue qui vient de parler.
C'est-à-dire donc c'est...
Les IVG médicamenteuses, c'est des IVG avant 9 semaines d'aménorrhée, 7 semaines de grossesse. Et donc, ce sont des IVG qu'on pratique en deux fois, avec deux prises de médicaments à 48 heures d'intervalle. Une première prise de Mifégine, c'est le nom du médicament, et une deuxième prise 48 heures plus tard, souvent par un autre professionnel, c'est rarement la même personne qui le fait. Et donc, il y a une sorte de zone grise créée par cette prise double, où c'est difficile de poser la responsabilité. Je pense que chacun se décharge un peu sur l'autre. Le premier doit se dire, c'est pas tellement moi qui fais l'IVG, c'est le deuxième, et le deuxième vice-versa. Donc, on accueillait des IVG dans notre service, assez rarement, je dois dire, ce qui fait que je pense que pour le réveil de la conscience, c'est pas pareil que de le subir régulièrement, comme le raconte Madeleine. Et effectivement, dans une équipe où il y a une sage-femme au bloc naissance et une sage-femme ensuite de couche. Donc quand vous êtes sur une journée où il y a des IVG qui arrivent, il faut s'en occuper.
Alors qu'est-ce que vous étiez amené à faire et à quel moment avez-vous décidé d'objecter comme...
Alors, peut-être en l'espace de 2 ans et demi, ça a dû arriver sur mes gardes, donc sur mes temps de travail, peut-être 4 ou 5 fois. Et donc, on est sur la deuxième phase de l'IVG médicamenteuse, donc c'est à nous de donner les médicaments pour ce qu'on appelle l'évacuation du contenu utérin, c'est-à-dire pour faire sortir l'embryon qui a été, dont la grossesse, dont l'évolution a été arrêtée par la première prise de médicaments, officiellement en tout cas. Et donc, effectivement, j'ai dû me poser la question de est-ce que je suis responsable de cette IVG si je fais ce deuxième acte ? Ma première réponse a été non. Je me disais, l'IVG a été réalisé déjà sur l'arrêt de la grossesse par la première prise de médicaments, donc je pense qu'on se met à distance à ce moment-là. Et il m'a fallu quand même plus de 2 ans hein, pour avoir un retour de conscience et me dire, oula, la zone grise, elle n'est pas aussi grise que ça, elle est vraiment noire. Et à ce moment-là, contrairement à Madeleine qui est clairement allée voir la cadre pour essayer effectivement de faire valoir cette clause de conscience, moi je pense que j'ai pressenti ce qu'elle a vécu, la difficulté, le refus tacite finalement, enfin le refus mais en tout cas de se faire mettre des bâtons dans les roues comme sa cadre, moi j'ai préféré partir. Je suis partie, c'était un contrat qu'on renouvelait régulièrement et j'ai choisi de partir.
Alors, il faut expliquer que donc je suis pas pour raconter votre vie, hein, mais vous aviez pas beaucoup de sécurité financière puisque vous n'êtes pas mariée, donc vous avez fait valoir votre objection, vous avez décidé de partir et vous étiez...
Effectivement, c'était pas un choix facile. Monsieur Capello parlait de l'absence de, parfois, de compréhension de la famille. Alors, ma famille comprend, on est tous chrétiens, mais ils ont été très très surpris de la soudaineté de la prise de décision. précision. Et eux, je pense qu'ils auraient aimé effectivement qu'on soit plus dans une sorte de, d'entre-deux où effectivement ils m'ont parlé de la clause de conscience et je connaissais cette clause de conscience. Mais moi, mon problème, c'était que rester dans ma tête, c'était participer. Et c'était très compliqué. Enfin, en tant que chrétien, et je pense qu'on l'est tous là sur le plateau. Enfin, en tout cas, Madeleine, visiblement, c'est peut-être le cas. Je suis quelqu'un qui craint Dieu et du coup, je voulais absolument pas rester dans cette ambiance, dans cet environnement. Et j'ai préféré partir. Ça a été très très bien reçu par la plupart des membres de l'équipe. La cadre a très bien compris.
Vous disiez que vos collègues, en préparant l'émission, disaient oui. On s'attendait à cette décision.
Oui, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup de collègues, et j'ai été très surprise de l'entendre, qui me disaient, oui, on s'attendait à ce que ça arrive. Quelques collègues où il y a eu une petite levée de bouclier, mais je pense que quand vous touchez sur la conscience de quelqu'un qui s'en est prémuni pendant longtemps, ça peut faire des réactions un petit peu pas violentes, parce que ça n'a jamais été violent, mais des petites réactions un peu virulentes. Mais beaucoup ont compris, et beaucoup, enfin, de la même manière que Madeleine disait que elle a des collègues qui lui ont raconté leur vécu. J'en ai deux ou trois qui sont de confession catholique d'ailleurs, hein, qui travaillaient dans ce secteur et qui ne faisaient pas valoir leur clause de conscience d'ailleurs, qui m'ont dit leurs difficultés. Qui m'ont dit leurs difficultés effectivement.
Philippe Capello, est-ce que vous avez un commentaire à ajouter à ces deux témoignages, et après j'aurai une question sur les pharmaciens.
Alors c'est très intéressant là, les deux témoignages là, parce que enfin voilà, on est au cœur du sujet là, complètement. Moi trois types de commentaires. Un, dans tous les cas qu'on voit là, on a eu deux témoignages, mais bon, nous on a eu énormément de témoignages. On a toujours la question, il y a la clause de conscience, c'est-à-dire que légalement on peut faire valoir sa clause de conscience, mais dans tous les cas, à chaque fois que vous faites valoir cette clause de conscience, les problèmes démarrent. Mais les problèmes à la fois négativement, parce que la personne est clairement mise en risque, mais également positivement, parce qu'il y a l'interaction avec l'entourage qui est très riche. Et donc là, on l'a vu. Hein, voilà. Donc, il y a ça. Deuxième chose, il y a le conditionnement. C'est-à-dire que on voit là dans le témoignage de Grâce, à titre privé, on a chacun ses convictions. Hein, donc on sait qu'il y a un certain nombre. Quand on est dans le domaine professionnel, il y a un certain devoir. Enfin, il y a le devoir, il est autre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes qui doivent être déroulés. Et donc, la grosse difficulté, et je pense que dans votre cas, Grâce, ça a été un peu la chose, c'est de passer de ce qui est donné comme devoir. Mmh. À un moment, on dit, mais non, ça, c'est mal, donc je ne peux pas. Moi, mon devoir, c'est quelque part de servir la vie, quoi, en fait. Hein. Et je ne peux pas. Et donc, voilà. Et c'est très compliqué parce qu'il y a un conditionnement. Il y a un conditionnement qui est organisé. Et puis le dernier cas, la dernière chose peut-être importante, c'est qu'à aucun moment il faut, tout le monde, effectivement, hein, il y a des motivations religieuses qui sont normales, mais on le voit bien, les discussions, Madeleine avec son entourage, ça va au-delà de la religion, c'est naturel, c'est-à-dire que les gens répugnent à ça. Mmh. Donc il faut jamais invoquer le fait religieux, hein, c'est-à-dire oui. qu'il faut invoquer le fait que ça répugne, que c'est infect, que c'est pas possible, que c'est, et ça c'est naturel, et tous les professionnels de santé le sentent, on l'a bien vu avec Madeleine, avec les relations qu'elle avait avec son entourage. Voilà, moi c'est les trois commentaires.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire ce qu'il en est des pharmaciens? J'ai souvenir, et c'est l'écho dans la presse a été assez discret, c'était il y a un an ou deux, les pharmaciens ont demandé à ce que leur soit reconnue la possibilité d'une objection de conscience, et la présidente de l'ordre des pharmaciens, je me souviens d'une interview, disait que cette demande était d'abord motivée par l'ensemble de la profession, au moins une majorité, par la crainte demain d'être obligé de distribuer des kits euthanasiques. Et j'ai souvenir que cette objection de conscience leur avait été refusée par les pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette actualité?
Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a suivi de très très près. Effectivement, les pharmaciens, la question qui a sous-tendu cette demande de clause de conscience, c'est que le fait, les pharmaciens voyaient arriver des prescriptions dans lesquelles il y avait un mixte de médicaments qui était en fait un cocktail euthanasique. Donc ces pharmaciens étaient très gênés, l'euthanasie n'est pas légalisée, voyaient arriver des prescriptions dans lesquelles ils voyaient que cette conjonction de produits avait un caractère euthanasique. Et donc ces pharmaciens disaient, moi en conscience j'ai un problème parce que je suis en train de collaborer à un acte illégal, hein, illégal au sens de la loi. Donc, il y a eu un sondage, comme vous le rappeliez, qui a été fait auprès de la profession, et une majorité de pharmaciens étaient pour une clause de conscience, pour pouvoir, au moins dans ces cas un peu limites, pouvoir avoir le droit, quelque part, d'exercer leur discernement. Et ça a fait, en fait, c'est arrivé au niveau du ministère de la Santé, et les gens n'ont pas compris cette demande. Ils ont compris que c'était lié aux questions de contraception et de pilules du lendemain. Et donc, on leur a fait un procès, très vite, sur ces questions de droits des femmes, etc. Et là, ça a été un tel tollé que l'ordre des pharmaciens a dit « si personne ne comprend rien à ça, on retire, terminé ». Et donc voilà, donc ça a été un débat mort-né.
Voilà, ça c'est pour les pharmaciens, on aurait pu parler de d'autres professions. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale et puis peut-être on va vous interroger, Philippe Capello, mais ça n'empêchera pas nos deux autres invités d'intervenir sur les critères de discernement que l'on peut avoir dans des zones quand elles ne sont pas noires, dans des zones un peu grises. Comment essayer de mettre au clair sa conscience quand on est on va dire pris dedans et quand les choses ne sont pas peut-être aussi tranchées que dans la situation décrite par celle de Madeleine ou de Grâce.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, objection de conscience, faire face au dilemme, voilà un sujet grave, ça arrive assez souvent de parler de sujets graves, mais là c'en est un. Nous sommes avec Philippe Capello, président de l'Association pour la liberté de conscience en France, et auteur ou coordinateur d'un ouvrage intitulé « Objection de conscience » paru aux éditions François-Xavier de Guibert, et Madeleine et Grâce, la première infirmière et la seconde sage-femme. Je redis, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, qu'il y a beaucoup d'invités au téléphone, mais que ce n'a pas été une émission facile à construire. Je pense que ceux qui ont suivi cette émission pourront comprendre pourquoi. Philippe Capello, je dis que c'est un sujet grave. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je le disais en introduction, ça relève en fait parfois de l'héroïsme, de savoir dire non. Est-ce que c'est votre sentiment? Et est-ce que vous pouvez nous décrire quelques situations où le fait de dire non peut mettre dans une situation extrêmement périlleuse?
Alors évidemment, dans les cas qu'on a en tête aujourd'hui, c'est souvent le travail qui est en cause, la perte du travail. ou l'obligation de changer de travail. Hein, on l'a vu, Grace a été obligée d'abandonner son travail et de trouver autre chose. C'est des situations qui peuvent être délicates.
Parlez bien près du combiné, s'il vous plaît.
Oui, oui. Donc, par exemple, les pharmaciens qui n'ont pas de clause de conscience, notamment les jeunes qui démarrent, sont dans des officines, ils sont en subordination par rapport aux pharmaciens. Et donc, ces gens-là n'ont pas de clause de conscience. Donc, la seule alternative pour eux, c'est s'ils exercent c'est d'avoir un compromis avec leur patron. Et donc, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Souvent, à la longue, ça ne marche pas. Et donc, ils sont obligés, enfin, ils peuvent être licenciés. Donc, les cas qu'on voit, c'est des licenciements. Les gens sont obligés de se reconvertir, de changer de travail. Donc, c'est essentiellement effectivement, c'est un martyr professionnel. On l'a appelé comme ça, au sens où les gens sont parfois obligés d'abandonner un métier qu'ils aiment bien. Le cas des pharmaciens d'officine est terrible parce que certains étudiants avaient vraiment choisi le métier de pharmacien d'officine parce qu'ils aimaient ce métier de contact avec le client, de conseil, etc. Et finalement, vraiment, sont obligés de le quitter et c'est sans gaieté de cœur pour aller vers la recherche ou les laboratoires, quoi.
Qu'est-ce que vous donneriez comme critère de discernement aux auditeurs qui seraient concernés ou des gens qui seraient en situation de conseil sur des situations qui sont peut-être un peu moins limites que celles décrites par Madeleine et Grace? Je sais pas, quand les gens viennent toquer à la porte de votre association, que leur dites-vous? Voilà, quelles sont les deux, trois questions clés à se poser?
Alors souvent, c'est quand même des situations assez claires. Hein. Donc on est les situations sont malgré tout assez claires. Bon, il y a des situations un petit peu plus limites, mais les gens viennent déjà, quand ils viennent chez nous, il y a déjà un travail qui s'est fait. Ils sont pas à l'aise avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils cherchent un conseil. Et souvent un conseil, qu'est-ce que je peux faire ? Nous, le premier conseil qu'on donne, c'est un conseil de communication. Parce que bien souvent, on le voit hein, dans l'exemple de Madeleine ou de Grace, c'est la question du cadre. Donc il faut aller expliquer la chose au cadre. Et ça, ça nécessite beaucoup de délicatesse, d'empathie pour et également la question du rapport avec les collègues, puisqu'il faut organiser le travail dans le service pour que ça fonctionne. Donc toute cette question de communication, elle est clé en fait, parce que c'est elle, soit ça se passe bien et effectivement on arrive à cohabiter, soit ça se passe mal et généralement ça se finit mal aussi. Donc voilà.
Dans l'ouvrage que vous avez coordonné, j'ai vu deux autres points peut-être qui peuvent servir de critères. Je me souviens plus de l'auteur, mais à un moment, il y en a un qui parle de la doctrine traditionnelle de la tolérance, laissant entendre que dans certaines situations, il vaudrait mieux ne rien dire parce que sinon le mal engendré serait plus grand derrière. Est-ce que vous pouvez éclairer peut-être ce point? Voilà.
Alors, la question de la tolérance, c'est-à-dire, ça va être essentiellement la question de la fuite. C'est-à-dire que l'objecteur, et on l'a vu hein, même dans le cas de Madeleine, elle le raconte dans ses études, elle ne cherche pas le problème. Elle va pas aller clamer partout son objection. Elle cherche à éviter les situations. Et donc, dans le cadre de ses études, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est trouvée à un moment donné, voilà, elle a expliqué tous ces petits subterfuges. Ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jouer le martyr. Voilà. Et ça, c'est effectivement, donc ça suppose on cherche pas l'idée, c'est que tous les objecteurs, mais les vrais objecteurs, ne cherchent pas le clash. Hein. Donc, c'est à un moment donné, quand ils sont acculés et qu'on leur demande l'acte, là, ils disent, écoutez, je ne peux pas. Mais sinon, ils font tout pour que ça fonctionne, quelque part.
L'autre critère pour vous, c'est le critère de la coopération. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ce critère ?
Alors oui, effectivement. Alors la coopération, c'est-à-dire le problème qui est ici posé et que personne ne comprend, c'est la question de la coopération. On voit que pour arriver à un certain acte, il y a une chaîne qui se déroule. Hein. Donc, la chaîne de la santé, elle est classique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient demander quelque chose et puis après, il y a un certain nombre de professionnels qui agissent pour arriver à la fin voulue. Hein. Donc voilà. Et donc, Il y a des maillons. Chacun est un petit maillon. Donc effectivement, Madeleine l'a bien expliqué, que voilà, au bloc, il y a l'infirmière, il y a l'aide opératoire, il y a 36 personnes qui sont là. Mais toutes ces personnes concourent à un acte. Et donc, la question qui est posée et qui est brûlante, on le voit d'ailleurs dans le deuxième témoignage de grâce, l'acte est coupé en deux. Et donc, il faut deux personnes différentes qui interviennent. Mais les deux coopèrent quelque part et concourent à ce que l'acte soit réalisé jusqu'au bout. Et donc, c'est cette question de la coopération qui est clé et qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent « Mais je suis en train de coopérer à un truc qui n'est pas bien. » Et donc, à un moment donné, la conscience se réveille et les gens disent « Non, je ne peux pas. » Même si le truc est découpé en petits morceaux qui font que chacun pense ne pas avoir une pleine responsabilité sur l'acte. À un moment donné, cette question de la coopération, elle remonte et effectivement, la conscience se réveille. Quoi.
Pour finir, dans cet ouvrage que vous avez coordonné, donc Objection de conscience, paru aux éditions François-Xavier de Guibert, le chapitre qui vous concerne est intitulé, si je ne me trompe pas, entre désobéissance civile et légitime défense, quelle prise en charge collective. Alors désobéissance civile et légitime défense, à la limite, on va dire qu'on a compris, mais vous insistez en fait sur la nécessité, vous le disiez au début de l'émission, d'une forme de solidarité autour des gens qui se retrouvent dans des situations limite. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que pour vous elle implique, cette solidarité?
Oui, c'est-à-dire qu'on voit l'une des caractéristiques essentielles de l'objection de conscience, c'est le fait que c'est individuel. Donc les gens, la solitude est vraiment quelque chose qui, enfin, on le voit nous dans tous les professionnels qu'on a en face, les gens à un moment donné se sentent très seuls. Et donc, ça, quelque part, je dirais, le système, enfin, si on peut appeler ça système, en joue, parce qu'ils savent que les gens sont seuls et fragiles. Et donc, quand on a pris conscience de cet état de fait, donc cette émission y concourt, puisque effectivement, pour les auditeurs qui auront suivi ça du début à la fin, ils auront pris conscience de ce qui se passe, quoi, chez ces professionnels de santé, la gravité du sujet, eh bien, il peut y avoir à un moment donné une forme d'empathie qui va se développer en se disant, mais c'est quand même incroyable, est-ce que je peux aider, comment je peux aider, etc. Voilà. Donc nous, on a, en étudiant ce phénomène-là, de manière théorique, puis en ayant été au contact des professionnels de santé, on s'est dit, on ne peut pas ne pas faire quelque chose, il faut quelque part une structure pour aider ces gens, les soutenir, et faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls.
Est-ce que ça veut dire que ça va jusqu'à presque une solidarité financière, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait des pères de famille qui se retrouvent à ne plus avoir de travail ou...
Complètement. C'est solidarité financière si les gens perdent leur travail. Oui, tout à fait. Ça, c'est clé. Solidarité professionnelle aussi pour que les gens retrouvent un travail. Parce que quand ils l'ont perdu, il faut retrouver, se réorienter, etc. Donc tout ça, oui, c'est clé. Oui.
Merci beaucoup à tous d'être venus au micro de Vivante Église pour cette émission sur l'objection de conscience. Deux informations à la fin de cette émission. Donc, je le rappelle, le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné, Philippe Capello, Objection de conscience, paru aux éditions François-Xavier de Guibert. Et puis, le site internet de votre association, Association pour la liberté de conscience en France, objectiondelaconscience.org. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.